Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment mobiliser durablement les agriculteurs et agricultrices autour de la préservation de la biodiversité ? Réponse avec Racine du Blavet. En Centre-Bretagne, ce collectif d'agriculteurs bio et conventionnels a décidé de faire appel aux associations de préservation de la nature afin de mieux intégrer la biodiversité dans leurs exploitations. Avant d'en parler dans quelques minutes avec Ronan Lemener de Bretagne Vivante, direction Melpestivien dans les Côtes d'Armor à la rencontre de ce collectif d'agriculteurs engagés. C'est un sujet signé Maël Ossias de Radio Crèze-Braise, votre radio associative dans le Centre-Bretagne.
Tu les as vues?
Ouais, je les ai vues, elles étaient là et j'ai voulu prendre les photos pour envoyer, mais c'était 6h du matin ou 7h. Je vais attendre un peu.
Alors donc moi c'est Jean-Michel Méner. Je suis associé avec mon beau-frère David Lebris. Donc on s'est installé en septembre 2004, après mes parents. La ferme faisait 91 hectares et ils étaient en conventionnel. Donc suite à 5 années de conventionnel qu'on a fait, on a décidé de passer en bio. C'était une animatrice de la chambre d'agriculture qui avait convié plusieurs agriculteurs qui avaient une sensibilité environnementale. Et on voulait travailler sur le carbone initialement. Donc suite à plusieurs réunions qu'on a fait sur le carbone, on s'est orienté sur le travail sur tout ce qui était sur l'arbre. Et ensuite, on est descendu réellement sur la biodiversité, parce que la biodiversité fait partie intégrante de notre environnement. On est 14 agriculteurs et agricultrices qui longent le Blavet, c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là, quoi. Voilà. Quelque part, nous sommes la racine aussi du Blavet, quoi. C'est par nous que l'eau du Blavet a cette qualité-là. On faisait partie d'un GI2E et donc du coup on avait une somme d'argent qui nous était accréditée. Donc le GI2E c'est un groupement d'intérêt écologique et économique. Donc c'est de façon à promouvoir des projets et faire développer une autre agriculture, quoi. Et donc du coup on a eu le droit, de par le projet un peu innovant, on a eu cette accréditation de subvention. Et donc du coup on a pu financer le poste de Julie, quoi.
Là, on prend du temps pour créer un modèle
Julie Leflour
qui semble viable, durable et, comme a dit Jean-Michel, aussi bien pour les assos naturalistes, pour la biodiversité que pour les agriculteurs, etc. Donc, on essaye de trouver un système pérenne. Une fois que ce système y sera trouvé, l'idée, c'est que, effectivement, on prouve sa pérennité et sa viabilité déjà sur les exploitations de nos membres. À terme, bien sûr, l'idée, c'est d'ouvrir l'association qui est localisée ici en Centre-Bretagne, de l'ouvrir à d'autres agriculteurs bretons. Mais l'idée utopique qui serait réalisable, ce serait de dupliquer le projet, quoi. D'avoir un racine du Blavet Vendée, d'avoir un racine du Blavet Alsace. Et qu'en fait, on explique juste qu'à partir de ce modèle-là, le principe, c'est juste d'essayer de comprendre son milieu, de bien étudier la typologie de la ferme, pour l'améliorer, et ça on peut le faire n'importe où, quoi. Il faut juste qu'on arrive à prouver que c'est faisable, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui.
Une fois le groupe des 14 agriculteurs et agricultrices constitué au sein de l'association Les Racines du Blavet, Jean-Michel Méner appelle les associations bretonnes de défense de l'environnement, comme le groupe Mammologique Breton, la LPO ou Vive Armor Nature, et celles-ci répondent tout de suite présent.
Comme on n'avait pas la compétence de connaître notre environnement, et on trouvait ça intéressant, De s'associer à des experts, enfin ils n'aiment pas ce terme-là, pourtant pour nous ce sont des experts, et de les avoir auprès de nous pour pouvoir éviter qu'on continue à faire des bêtises comme on a pu faire par le passé, quoi. Donc en s'associant ensemble, enfin en travaillant ensemble, on progresse ensemble, donc chacun comprend l'autre, et puis on essaye de mettre en place des actions que chacun accepte. C'est ça qui est intéressant, parce que dans l'association on est de différentes filières, on représente 11 filières différentes, qu'on soit en bio, conventionnel. Il y a un exemple type, c'est le retournement des chaumes direct après la récolte, et les associations naturalistes ne comprennent pas pourquoi on fait ça, alors que nous, on est obligé de le faire dans le cadre de la PAC, quoi. Donc du coup, ben, on essaye de trouver des solutions ou de trouver un juste milieu. Se comprendre mutuellement les obligations des uns et les contraintes des autres pour pouvoir essayer de faire un mieux, quoi. Il y a 5 ans, quand je n'avais pas pris connaissance de l'importance des ronces, bah je nettoyais tous mes talus, même XXL, puisque j'allais même des fois chez le voisin. Et aujourd'hui, bah, je laisse pousser. Et du coup, bah, j'ai le chêne là, qui pousse naturellement. Alors, il a 3-4 ans, et voilà, c'est reparti. Et les ronces poussent naturellement aussi. Et ça nourrit bourdons et abeilles. Ça permet d'avoir un talus plein et qui fait proliférer la biodiversité dans sa globalité, quoi. Et tout au long de l'année, quoi. Il y a du genêt, il y a de la fougère, il y a un peu de tout, quoi, du sol. Pour moi qui était conventionnel et qui aimait bien les choses toutes propres avant, ben, je me suis rendu compte que ben, la nature, c'est l'opposé de notre maison, quoi. Il faut arrêter à vouloir toujours avoir tout propre. Et si on veut faire vivre notre nature et qu'elle nous serve indirectement par les mellifères pour les cultures et les talus pour l'érosion et protéger l'eau, ben, il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait jusque-là, quoi. L'inverse. Et c'est ça qui est c'est ça qui est fou, quoi.
L'idée, c'est de construire, d'édifier des actions qui ont vocation à imbriquées les unes dans les autres, sont systémiques pour l'ensemble de la ferme. Mais encore une fois, l'idée, c'est que chaque action puisse être adaptée à chaque exploitation. Si on parle des prairies naturelles, je dis n'importe quoi, il y a peut-être des agriculteurs qui n'ont pas de prairies naturelles sur leur exploitation, on ne peut pas nécessairement leur imposer de travailler sur les prairies naturelles. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas de zone humide, etc. Donc en fait, on a un panel de 30 actions en se disant, il y a forcément quelques actions parmi les 30 qui sont adaptables à n'importe quelle exploitation, dans n'importe quelle région de France, quoi. C'est un peu l'idée. Et après, l'idée, bah, le mieux, bien entendu, c'est que l'ensemble de ces actions soient mises en place sur la ferme pour avoir un vrai impact systémique et long terme, quoi. Mais donc, tu as des actions aussi bien de construction et d'aménagement. Donc, tu vas avoir la création de talus, de haies, de mares, etc. Et à l'inverse, il y a des actions qui consistent à ne rien faire. Laisser le talus tranquille, garder une prairie naturelle sur le long terme, sans rotation, enfin voilà. Essayer de mettre en place comme ça des petites choses finalement, qui sont, enfin, pour certaines qui sont un peu conséquentes et qui nécessitent l'intervention de prestataires, etc. Mais il y a d'autres choses qui sont à la portée de tout le monde. Il faut juste qu'on le mette sur la table, qu'on explique et qu'on essaye de guider un peu l'agriculteur pour le faire, quoi. On ne peut pas se permettre de demander à un agriculteur de faire ce cheminement tout seul, de planter sa haie tout seul, ou de creuser sa mare tout seul, ou d'apprendre à gérer son talus tout seul. Ce qu'on veut, c'est accompagner tout le monde dans sa démarche. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'impact financier sur l'agriculteur non plus. Enfin, si, mais qu'il soit positif. On veut sensibiliser. Et on veut rendre à la biodiversité ce qu'on peut rendre à la biodiversité. Et l'idée, à terme, c'est de faire... Si tu veux faire rentrer la protection de la biodiversité dans le modèle économique de la ferme, que ça soit vraiment, que ça fasse partie intégrante du métier d'agriculteur. Enfin, il y a des agriculteurs dans le groupe qui sont en conventionnel depuis longtemps, qui ont connu que ça. C'est un pas de géant qu'ils ont fait en rejoignant l'association, et parce que on leur explique. Et je pense qu'il y a plus d'un agriculteur qu'on irait voir en expliquant qu'il va y trouver un intérêt financier, il va valoriser son exploitation. Parce que bah, les repreneurs, c'est ce qu'ils cherchent aussi, les jeunes agriculteurs. La plupart aiment recherchent des terres bocagères, etc. Plus qu'en plus, il va faire moins de dégâts sur la nature. Enfin, je ne vois pas ce qui pourrait être un frein. Encore une fois, il faut juste prendre le temps. Il ne faut pas être pressé, il faut juste laisser faire, quoi.
La nature, c'est un temps long. Ouais. Et nous, on est un temps court. Ouais. Donc, et on est toujours prêt. Voilà, on n'est pas du tout sur le même rythme. Un arbre, il a l'âge adulte à entre 100 et 150 ans. Nous, à 150 ans, c'est fini, quoi. Donc, voilà, on est... le temps, ça n'a pas la même perception, quoi. Ouais. Donc, du coup, forcément, on peut pas se comprendre. Mais alors, il faut savoir la penser aux autres, quoi. Donc, du coup, les actions qu'on met, c'est pas forcément pour nous, à l'instant T. C'est 20, 30, 40 ans. Une haie, c'est 50, 100, 150 ans. Voire 1000 ans pour certains arbres, mais ça aura fait 10 générations, quoi. quand on réfléchit à ça. Donc, qu'est-ce qu'on est ?
Voilà pour ce reportage signé Maëlle Ozias de Radio Kreiz-Breizh à Rostronin sur ce collectif de 14 agriculteurs situé près du Blavet, en Centre-Bretagne. Pour aller plus loin encore sur cette belle initiative, nous sommes en liaison avec Ronan Lemener, chargé de mission biodiversité à Bretagne Vivante. Bretagne Vivante étant l'une des associations environnementales directement contactées par ce collectif d'agriculteurs afin de les aider dans leur démarche. Ronan Lemener, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre avec Jean-Michel Ménère, agriculteur, président du collectif, et Julie Leflour, qui est l'animatrice de l'association Racines du Blavet ?
Ah ben, on sent la motivation et l'implication des deux personnes. Et puis, moi, je trouve toujours très agréable de pouvoir entendre des oiseaux comme ça dans la campagne. L'autre intérêt aussi du reportage, c'est que ça met bien en évidence toutes les réflexions qui ont abouti à cette création qui est encore en gestation.
Oui, c'est un projet qui a quelques mois, en fait, au final. C'est quelque chose qui a démarré assez récemment.
Oui, en fait, c'est un projet qui a quelques mois dans sa réalisation concrète, mais c'est une réflexion qui est menée depuis maintenant bien, peut-être deux ans, trois ans. Enfin, là, c'est Jean-Michel, je pense que dans sa tête, ça mature depuis déjà un certain temps.
Alors, on l'a entendu, ce sont aussi bien des agriculteurs bio que conventionnels qui se sont inscrits dans cette démarche pour mieux préserver la biodiversité dans leur exploitation. Qu'est-ce que cela vous évoque, le fait qu'on ait à la fois, non pas seulement des agriculteurs bio, mais aussi des agriculteurs plus conventionnels ?
Bah justement, c'est un des intérêts de cette démarche-là, c'est que c'est représentatif du paysage agricole breton, où si on reste dans l'entre-soi des convaincus, des personnes qui sont déjà sur une action très avancée sur la biodiversité ou sur l'agriculture bio de niche, ben, ça n'aura pas la portée en termes de surface et en termes de nombre d'acteurs concernés. Alors que là, on est vraiment sur... c'est un échantillon, parce qu'ils ne sont pour l'instant que 14, mais qui est plus représentatif de l'agriculture locale.
C'est assez nouveau comme phénomène, le fait qu'on puisse créer dans un même collectif et dans une même mouvance pour préserver un peu mieux la biodiversité, qu'on puisse réunir à la fois des agriculteurs bio et conventionnels.
Oui, c'est nouveau. En fait, c'est quelque chose, en tout cas, que nous, on n'a pas eu l'expérience d'observer. Et que ce soit une dynamique qu'eux-mêmes ont créée, qui soit une dynamique, effectivement, de leur part, créée à partir du terrain.
Alors justement, comment vous réagissez au fait que ce collectif d'agriculteurs ait fait appel de leur propre initiative à vous, Bretagne Vivante, mais aussi à d'autres associations environnementales comme la LPO ou Vive Armor Nature? Voilà, est-ce que ça aussi, c'est pas assez original que ce soit de leur propre chef qu'ils aient fait appel à vous?
Évidemment, c'est très intéressant. En fait, c'est même pour ça qu'on répond présent à la sollicitation et sans barguigner, parce que c'est une des premières fois où on se retrouve des associations où on se connaît, on se connaît tous, mais sollicité par un groupement agricole, on va dire apolitique, asyndical. Donc là, c'est vraiment original. Et puis, on a forcément envie de participer à cette réflexion. Sur le thème central de la biodiversité, c'est notre thème d'action.
Et ça vous a surpris au départ, cet appel de ce collectif d'agriculteurs ?
Alors moi, c'est pas la surprise, c'est plutôt de l'enthousiasme. En fait, des choses qui émergent et dont on entend parler au niveau sociétal, bah, commencent à s'observer ici. C'est de la prise de conscience d'une génération et qui se retrouve aussi au niveau agricole de l'intérêt et des enjeux que représente en termes de surface la profession et des enjeux pour la biodiversité. On entend des chiffres qui sont catastrophiques en termes de biodiversité et que l'impact de la population et de l'activité agricole est forte sur cette biodiversité. Donc que ce soit les agriculteurs qui réagissent à cela, c'est vraiment quelque chose qui nous enthousiasme.
Ouais, c'est assez encourageant d'entendre ça en tout cas. Et comment vous, à Bretagne Vivante, vous êtes du coup investi après ce premier appel, cette première prise de contact, comment vous avez décidé ensemble de vous investir concrètement auprès de ces agriculteurs ?
Alors, on a des différentes compétences au niveau de l'association Bretagne Vivante. Ce qu'on peut proposer, c'est notre regard sur la biodiversité et comment... sur les exploitations ou les bâtiments, d'ailleurs, sur lesquels travaillent les agriculteurs. En fait, bien souvent, ils pensent la biodiversité en termes d'espèces ultra rares ou espèces protégées. Or, la biodiversité, c'est aussi tout un cortège d'espèces assez banales, mais qui peuvent être vraiment influencées positivement ou négativement par les activités et par le traitement des marges de l'activité agricole. Je pense aux talus, aux délaissés, et des choses comme ça. Et en fait, sur une ferme, sur des territoires agricoles, il y a des espèces présentes et ces espèces en fait bénéficient de l'action des agriculteurs. Elle est, on a des cortèges qui sont assez surprenants parfois d'insectes, d'oiseaux très liés au mode de traitement des espaces péri-agricoles, on va dire.
Et du coup, dans ses premiers contacts sur cette thématique, notamment la préservation des espèces, est-ce qu'il a été tout de suite facile de vous comprendre, de parler le même langage ?
Je pense qu'on a eu, nous, c'est pas adoucir, mais trouver les mots qui soient partagés. Parce que de temps en temps, sur certains vocables, on ne dit pas la même chose. Et puis sur les intentions, sur les objectifs aussi, on ne dit pas la même chose. Donc on s'accorde sur le vocabulaire, mais après, une fois que tout ça s'est partagé, on n'est vraiment que sur une technique. Mais on arrive à se comprendre assez facilement parce qu'on est globalement sur des espaces ruraux où les agriculteurs en fait sont présents et sont toujours présents et on n'est pas nous acteurs de la biodiversité complètement détachés des territoires ruraux dans lesquels nous vivons.
Et pourtant, Ronald Ménard, les agriculteurs et les associations naturalistes se sont très longtemps, jusqu'à maintenant, et encore un peu maintenant, opposés sur certains terrains, sur certains combats. Est-ce que vous sentez, justement, avec ce collectif, complètement un changement d'approche ?
En fait, là, je vais nous punir, puisque je pense que c'est les acteurs de la biodiversité qui, à un moment donné, se sont concentrés sur les espèces patrimoniales et les espaces protégés et à haute valeur patrimoniale. Mais si on ne conserve que des îlots de biodiversité exceptionnels à l'échelle d'un territoire comme la Bretagne, l'action sur la biodiversité va être négligeable. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est maintenant s'intéresser aux territoires ruraux dans leur ensemble, donc forcément avec implication des agriculteurs. Et puis par ailleurs, il faut distinguer des espaces ruraux, des espaces naturels où il y a peu d'activité humaine, ce qui en Bretagne est assez rare, des espaces intérieurs, alors je pense plutôt au littoral, quand on dit des espaces naturels où il y a peu d'activité humaine. L'intérieur, on a des espaces naturels qui sont plutôt semi-naturels, dont toute l'intérêt provient justement de cette gestion par l'agriculture pendant des décennies, voire des siècles.
Oui, donc ça veut dire qu'il faut absolument s'intéresser aux terres agricoles qui représentent une surface presque majoritaire dans un territoire comme la Bretagne. C'est pas suffisant de créer des espaces protégés, c'est bien ça ?
C'est pas suffisant, on n'atteindra jamais les objectifs que nous-mêmes on se fixe et puis qui sont les objectifs attendus de préservation de la biodiversité à l'échelle du territoire si on ne s'intéresse qu'aux territoires protégés. Je n'ai pas le chiffre exact, mais actuellement, il y a une tendance à la protection des espaces vers un objectif de 10% d'espaces très protégés et 30% d'espaces protégés de moindre mesure. Mais on est très loin de ces chiffres-là actuellement en Bretagne. Donc, il faut forcément s'intéresser aux espaces agricoles qui, eux, concernent 70-80% peut-être du territoire.
Vous êtes vous-même, Ronan, fils de paysan. Est-ce que cela a pu faciliter les choses pour établir rapidement aussi un lien de confiance entre vous ?
Disons, c'est là où je disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas complètement déconnecté des territoires dans lesquels on vit. Moi, j'habite en territoire rural. Je suis effectivement fils d'agriculteur. Je suis ni surpris, ni... désemparé devant les engagements qu'ont les agriculteurs et les obligations qu'ils ont. Et du coup, je comprends leurs problématiques et je sais que dans ces problématiques qu'ils ont, ils ont une marge de manœuvre et que cette marge de manœuvre est à l'appréciation du paysan et qu'il peut mettre son curseur plus ou moins haut. Donc, il y a des obligations dont... On sait tous qu'elles sont très très importantes, mais à l'intérieur de ces obligations, il y a des marges de manœuvre qui dépendent vraiment de l'agriculteur.
Alors, obligation, marge de manœuvre. Quand vous avez fait le constat de leur pratique dans leur activité d'agriculteur, parce que c'est par là que vous êtes aussi rentré en relation avec eux, est-ce qu'il y avait des actions de leur part qui n'étaient pas forcément les bonnes ou qu'ils croyaient, eux, bien faire, mais qui n'étaient pas forcément très adaptées?
En fait, c'est souvent... la petite erreur vient du fait qu'on veut trop bien faire. Et trop bien faire, ça veut dire trop gérer, trop insister sur des pratiques pour vouloir faire propre. Et en fait, la nature, elle aime bien aussi qu'on la laisse un petit peu tranquille. Et donc, les recommandations qu'on a pu faire, mais très rapidement, c'est justement au contraire de lever le pied, faire moins, allez-y doucement. Il y a quelques exemples sur lesquels on s'est assez vite entendu. L'entretien des haies avec les pareuses, par exemple. On leur dit, mais est-ce que vous avez vraiment nécessité de couper systématiquement tous les ans, de raser tout ça? Et c'est pas une nécessité, c'est juste parce qu'il y a une certaine habitude à faire et que ça fait peut-être plus propre, avec beaucoup de guillemets autour du mot, quoi.
Oui, donc ça veut dire qu'ils s'étaient, eux, habitués réellement à réaliser des actes dans leur exploitation qui n'étaient pas finalement très bonnes pour la biodiversité.
C'est ça. En fait, lorsqu'on gère un peu de moins, on met un peu moins de pression de gestion, on va laisser le temps au cortège d'insectes, d'oiseaux, de faire leur reproduction, de laisser si on parle des talus, avec les ronces qui se développent, les murs qui vont jusqu'aux fruits, les fruits qui sont mangés par les oiseaux, les insectes, qui vont eux-mêmes ensuite être source de nourriture pour d'autres espèces. Donc voilà, il suffit que d'une petite action et en fait on a de grandes conséquences.
Comment vous procédez finalement pour leur venir en aide et pour bien les conseiller? Est-ce que c'est du conseil direct d'homme à homme? Est-ce que c'est aussi peut-être essayer de planifier les choses pour qu'ils y voient plus clair? Comment vous procédez justement pour le soutien que vous leur apportez?
Alors, on souhaite procéder sous la forme d'un diagnostic et des prescriptions. Donc, le diagnostic, c'est on se rend dans la ferme et on regarde et on note tous les éléments qui nous paraissent intéressants, les éléments positifs comme négatifs. C'est-à-dire, lorsque c'est un petit peu trop ou pas suffisamment, enfin des choses comme ça. On est de cet ordre-là, quoi. Et le but du jeu, c'est plutôt de valoriser ce qui est bien fait et d'orienter et de déplacer le curseur sur ce qui pourrait être à améliorer. Et ensuite, on livre un petit document qui est un petit document d'orientation.
Document d'orientation pour l'exploitation sur la biodiversité. Et en même temps, j'imagine que pour certains agriculteurs, c'est pas mal de contraintes, c'est pas mal de changements d'habitude. Qu'est-ce qui pourrait être des freins finalement à ce qu'ils puissent arriver à réaliser ce que vous préconisez?
Alors, c'est justement là, c'est pas des gros changements. C'est des pratiques qu'ils réalisent déjà, mais qu'ils doivent décaler sur une autre partie où c'est eux les experts de leur exploitation. Ils connaissent leur ferme, ils connaissent où sont les ressources en eau, où sont les bonnes terres, où sont les terres un peu délaissées. Et sur ces espaces délaissés, on a beaucoup à progresser. Et en fait, on leur dit juste, continuez à faire ce que vous faites, hein, mais faites-le un petit peu ailleurs ou un petit peu différemment. C'est juste ça. Donc les prescriptions, en fait, on pourrait gagner beaucoup de choses juste en décalant certaines choses, quoi.
Donc il n'y a pas forcément de frein en termes de financement, par exemple. Ce que vous pouvez leur préconiser peut leur coûter de l'argent, justement. Et...
Alors, il y aura peut-être certains cas où on aura des créations. Alors, je pense, si on veut donner un exemple précis, si on veut favoriser l'accueil des amphibiens, par exemple, ou sur une exploitation, on parle souvent de la création de mares. Donc, effectivement, l'agriculteur est doté de matériel pouvant creuser un petit peu le sol, on peut éventuellement le faire en régie. C'est un coût. Alors c'est le coût, par contre, qui est du coût de le faire en interne par l'agriculteur. S'il doit faire une entreprise, c'est des coûts qui doivent être externalisés. Donc du coup, peut-être des aides à solliciter.
Bon, et le manque de temps qu'on invoque souvent dans nos sociétés, quelque chose que peuvent dire aussi les agriculteurs, manque de temps, manque de technique, c'est des choses aussi sur lesquelles vous essayez de les aider sur la façon de s'organiser pour réaliser ces objectifs.
Bah là, on contribue beaucoup, en fait, parce que dans la mesure où on leur dit « levez le pied, faites moins », je pense qu'on contribue à leur donner du temps. Je reprends encore l'exemple de l'épareuse. Si on leur dit, au lieu de passer trois fois par an ou deux fois par an sur un talus, et ben vous ne faites plus qu'une fois et pas tous les talus la même année, et ben on leur fait gagner du temps comme ça, quoi.
Ça demande en tout cas un accompagnement assez, assez régulier avec eux. Ce n'est pas juste une petite réunion entre vous, c'est de le faire au long cours, cet accompagnement, finalement.
Ça demande effectivement un bon accompagnement sur place la première fois et une bonne discussion, vraiment une bonne discussion pour que l'intention de l'exploitant et de l'agriculteur soit bien pris en compte par la personne qui va faire le diagnostic et les prescriptions. Encore une fois, c'est lui qui restera le maître de sa ferme. Et si les intentions ne sont pas comprises, les intentions en termes de biodiversité ne sont pas comprises par l'agriculteur, bah, de toute façon, on n'ira pas faire à sa place. Donc, il faut vraiment passer beaucoup de temps initialement. Après, on peut affiner et être... parce que voilà, on a aussi une certaine habitude de la recommandation ou des travaux. On peut affiner et répondre à des demandes très, très ponctuelles et très précises, mais le but du jeu, c'est de ne pas être non plus tout le temps systématiquement dans l'accompagnement. C'est qu'ils soient autonomes sur leur ferme pour justement accueillir la biodiversité.
Est-ce que depuis que cet accompagnement a commencé, Ronan, vous avez déjà noté de nets progrès dans certaines exploitations, vu des choses assez spectaculaires même, ou est-ce que voilà, c'est encore trop tôt pour vraiment tirer les conclusions de cette action?
Alors, on est encore trop tôt, parce qu'effectivement, l'association a été créée il y a peu. Le cahier des charges qu'il se donne est en cours de rédaction. Les actions ne sont pas encore menées, donc on est vraiment au tout début de la genèse du projet.
Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas se projeter vers l'avenir? Parce qu'une telle initiative, déjà dans le centre Bretagne, est-ce qu'elle ne devrait pas être répliquée finalement partout en Bretagne? Et puis pourquoi pas au niveau national? Est-ce que voilà, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire avancer les choses?
Alors effectivement, je pense que cette initiative mérite d'être répliquée dans la construction initiale, c'est-à-dire un collectif d'agriculteurs autosaisis qui décide d'agir sur la biodiversité en s'appuyant sur les compétences locales ou régionales. Et donc ça, ça mérite d'être répliqué. Et puis après, pour revenir au cas précis de l'association Racines du Blavet, il faut aussi que cette association, maintenant, prouve sa capacité à changer à la fois les pratiques agricoles, enfin pas forcément les pratiques, mais l'accueil, justement la prise en compte de la biodiversité dans les exploitations, et puis dans un second temps pour élargir à d'autres agriculteurs sur le territoire du Blavet par exemple, puis ensuite au-delà.
Très bien. Ronan Lemener, merci. Je rappelle que vous êtes basé dans le secteur de Rostronin et que vous êtes chargé de mission biodiversité à l'association Bretagne Vivante, dont l'adresse internet est bretagne-vivante.org. Si vous êtes intéressé pour encore mieux connaître ou pour soutenir, et il en a besoin, ce collectif d'agriculteurs engagés pour la biodiversité, l'association s'appelle donc Racines du Blavet, terre de biodiversité, située à Locarn dans les Côtes d'Armor. Le site internet www.racines.fr. Merci également à Anthony Guignard de Radio Crèce-Braise, votre radio associative dans le centre Bretagne, pour la réalisation de ce duplex. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Biodiversité en air. D'ici là, vous en avez l'habitude désormais, prenez soin de vous. Et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.